Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série dédiée aux troubles du spectre de l'autisme, rendue possible grâce au site autismeetsommeil.fr. Il s'agit d'un site d'information à destination des familles d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme, TSA, et des professionnels de santé s'occupant de ces enfants. Son objectif est de leur apporter les informations et les outils facilitant la prise en charge des troubles du sommeil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet important et souvent méconnu. Les troubles du spectre de l'autisme et leur impact sur la vie professionnelle. Notre invitée du jour est Mélanie, une jeune femme de 31 ans, pleine de détermination et de courage. Mélanie a été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle et son parcours est tout sauf ordinaire. Son diagnostic a été posé en une journée, une rareté dans un monde où les délais de diagnostic sont souvent bien trop longs, laissant derrière eux une trace de souffrance accumulée. Mélanie a fait face à une dépression avant d'accepter sa différence, mais elle n'a pas parcouru ce chemin seule. Elle a bénéficié du soutien précieux de l'association Arden Asperger. Cette association a joué un rôle essentiel pour aider sa famille à mieux comprendre ses difficultés, ses particularités et son fonctionnement unique au quotidien. Malgré de nombreuses difficultés scolaires, notamment un trouble de l'attention, la dyslexie et une dyspraxie non reconnue à l'époque, Mélanie a poursuivi un cursus scolaire classique, soutenu par des parents déterminés à lui offrir les mêmes opportunités que les autres enfants. Elle a dû apprendre par elle-même car le corps enseignant n'était pas suffisamment informé sur les troubles du spectre de l'autisme et aucune pédagogie adaptée n'était disponible dans les établissements qu'elle a fréquentés. Le chemin de Mélanie n'a pas été sans obstacles. Elle a dû faire face au harcèlement moral au collège et au lycée. Malheureusement, cela reflète la triste réalité de nombreuses personnes vivant avec de l'autisme qui sont souvent harcelées en raison de leurs différences, mal comprises et peu acceptées dans notre société. Mélanie nous fera part de ses expériences d'apprentissage, de la façon dont son cerveau fonctionne sans répit et des défis qu'elle a dû relever pour réussir académiquement. Malgré les prédictions de certains professeurs, elle a réussi à obtenir son brevet agricole, son CAP fleuriste et son CAP petite enfance ainsi que son BAFA. Cependant, la vie professionnelle a apporté de nouveaux défis pour Mélanie, notamment en termes de fatigue et d'adaptation. Son ancien travail devenait de plus en plus difficile à tenir, alors elle a dû faire face à des choix difficiles. Restez avec nous pour découvrir le parcours exceptionnel de Mélanie. Je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite une excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Mélanie.
Bonjour Lorraine.
Merci d'accepter d'échanger sur ton parcours sur Chronique. On va commencer par une petite question de présentation. Donc, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs?
Alors, je m'appelle Mélanie Gillet. Je suis la créatrice du compte Insta La Différence est une force. J'ai 31 ans. J'ai été diagnostiquée à 26 ans. Avant, on disait autiste Asperger, maintenant on dit TSA. C'est un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Ça, j'y tiens, parce que le sans déficience intellectuelle, il est important. Et du coup, en fait, j'ai créé ce compte pour sensibiliser au maximum en fait à ça, parce que on s'y attendait pas du tout et enfin même si on se posait des questions, chez la femme c'est quand même complètement différent que chez l'homme.
Ok, tu peux nous raconter justement un peu toi ton parcours de diagnostic et ta prise en charge.
Alors il y a beaucoup de choses. moi, j'ai eu la chance, en fait, que ma mère travaille dans un, comme, comme, une structure spécialisée sur l'autisme, mais plus sévère là par contre. Et en fait, il y a une dame, une personne spécialisée dans l'autisme, en fait, on a pas mal échangé. Et du coup, j'ai demandé à prendre un rendez-vous pour être fixée. En fait, je voulais pas passer par l'ARS parce que c'est beaucoup trop long et c'est beaucoup trop long. Les spécialistes, bah, ça coûte une blinde. Donc, voilà. Je peux pas, moi, je peux pas me permettre. En tout cas, je peux pas. Et du coup, en fait, elle m'a posé plein de questions, comment je vivais en fait. Donc, moi, j'ai dit que j'étais hyper rigide. Enfin, par exemple, je suis très ponctuelle normalement. Mais nous, par exemple, qu'on lui dit 2 heures, ben on est là à 2 heures quand même largement avant. Moi, je sais qu'à rendez-vous, j'arrive un quart d'heure à l'avance. Mmh. Et au boulot, c'était pareil. Or, ben, évidemment, on profitait de moi. Sauf que moi, je m'en rendais pas forcément compte à cette époque-là. Maintenant, je le sais, donc je suis très vigilante. Mais on est hyper carré. Enfin, des fois je me supporte même plus moi-même en fait, parce que je me dis, je suis chiante, mais je suis insupportable. Mais en fait, je sais que c'est mon cerveau qui est compliqué. donc du coup, en fait, c'est cette personne-là qui m'a posé le diagnostic. Et après, en fait, la directrice, comme elle fait beaucoup de choses dans les Ardennes, c'est comme ça que j'ai eu des aides. Parce que sinon, en fait, si on connaît personne, bah, c'est compliqué d'arriver à quelque chose vraiment de concret, en fait. Et c'est comme, donc, en fait, ces personnes, enfin, j'ai une personne par mois qui vient m'aider juste pour mes papiers. Moi, tout ce qui est quotidien, après, j'y arrive, je sais faire tout, j'ai tout appris toute seule. Après, je sais que si j'ai un souci, je peux les appeler. Mais comme je suis habituée avec mes parents, tout ça, en fait, j'aime pas trop déranger. Et ça fait partie du handicap. C'est souvent quand on est autiste, en fait, on n'aime pas trop déranger les gens. Et ça, c'est compliqué de faire comprendre aussi qu'on n'aime pas forcément déranger, en fait. Parce que moi, je sais qu'il y a des personnes au travail, en fait, je faisais tout par moi-même. Et on me disait, mais Mélanie, tu sais, on peut t'aider. Mais en fait, moi, je voyais pas l'intérêt, parce que je savais le faire. Donc, en fait, le diagnostic s'est fait comme ça. Et après, j'ai été beaucoup dans des associations, en fait. Il y a Ardennes Asperger qui a une grosse association dans les Ardennes, qui fait énormément de choses pour l'autisme. Comme au début, mon compte, en fait, il était pas trop connu et qui a pris énormément d'ampleur. Du coup, j'ai posé la question si je pouvais en parler. Ils sont tout à fait, en plus, on connaît la présidente, donc, tout à fait d'accord. Et oui, pour la MDPH. Je pense à ça. Très important. Donc moi, du coup, la chose plus importante qu'il faut demander pour moi, c'est l'AH, la RQTH, parce qu'il faut se protéger un maximum. Et la carte CMI, c'est la carte mobilité insertion. Ça fait pas très très longtemps qu'elle existe, mais c'est hyper important en fait, parce que en général, chez les TSA, en fait, on n'aime pas l'attente. Moi, j'ai du mal à attendre en caisse. C'est compliqué. Bon, après, c'est sûr qu'on se tape des réflexions de certaines personnes. Il faut savoir répondre parce que, enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir un gros caractère. Je pense que ça se voit. Et du coup, après, ça m'a jamais arrivé, mais je sais que si je dois répondre quelque chose, la personne, après, j'espère ne pas être trop piquante, mais ça, je ne sais pas. Ça dépendra de mon humeur du jour.
Tout à l'heure, tu disais que ton diagnostic, il s'est fait en une journée. Est-ce que, toi, tes parents s'étaient posé des questions quand t'étais plus jeune?
Oui, ma mère.
Ouais.
Mais en fait, j'avais pas vraiment des crises de colère, en fait, mais je m'énervais toute seule, mais pour rien. Juste en plus, j'étais diagnostiquée hypersensible, donc ça en rajoute en plus une couche. Et en fait, dès qu'on me disait quelque chose qui me plaisait pas, ben, je m'énervais toute seule, en fait. Ou alors, je pinçais, quand j'étais petite, plutôt, je mordais. Mais après, mes parents ont été vachement durs avec moi, et je pense que c'est un bien, en fait. Mmh. Parce que, de mon sens, je pense que plus on est dur avec les enfants TSA ou avec autisme, et plus on y arrive. Après, c'est sûr que pour nous, c'est difficile parce que on prenne énormément sur nous. Je pense que il faut qu'on soit dur avec nous-mêmes. Enfin, moi, je sais que je suis dure avec moi-même et dure avec les autres. Alors, je fais pas forcément exprès, mais en fait, c'est plus je suis dure avec moi-même, plus j'y arrive. Bon, c'est bizarre, mais bon.
C'est comme ça. Ta manière de fonctionner.
Ouais, c'est ça, c'est ma manière de fonctionner qui est un peu étrange, mais faut faire avec, hein. Après quoi. Au moment où j'ai travaillé, où on m'en demandait beaucoup plus, même trop, en fait, j'ai pété un câble. Mais heureusement, c'était un week-end, donc je n'ai pas pété le câble au boulot. Et heureusement, j'ai eu de la chance. Et en fait, ouais, j'étais hyper. En fait, c'est la première fois de ma vie que j'étais hyper violente. Enfin, j'ai frappé. Enfin, j'étais. Ouais, enfin, en fait, c'était une crise autistique. J'en ai jamais fait avant.
Ok.
Ça, faut le savoir, je n'en ai jamais fait avant. Et en fait, là, c'était la surdose, en fait. J'en pouvais plus. Au boulot, on mettait des heures à gogo et je disais ouais, que j'étais fatiguée, on ne croyait pas. Et en fait, je pense que j'en avais marre qu'on ne croit pas. Et c'est parti en sucette. Et en fait, avec ma mère, le soir, parce que j'ai pleuré, j'étais vraiment vidée. Et ma mère m'a dit, écoute, faut qu'on parle. Je pense que tu as des troubles autistiques. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et moi, en fait, je lui dis, mais moi, en fait, j'ai vu une émission sur le spectre autistique, donc dans les yeux d'Olivier. Je me suis reconnue. Enfin, sur certains points, parce que pas dans tout, mais sur certains points. Du coup, elle me dit, est-ce que tu veux voir cette personne? Et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, on a pris rendez-vous, j'y suis allée, et je travaillais à ce moment-là. Donc, le
Ça
lendemain,
sent.
en fait, le lendemain, je crois que les parents m'ont pas reconnue parce qu'ils m'ont dit, Mélanie, c'est pas pareil que d'habitude. Genre, j'ai pas dit pourquoi. Je dis non, enfin, j'ai quelques petits. Enfin, voilà, je suis assez perturbée aujourd'hui, mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Et après, enfin, j'ai pris sur moi, mais après, de toute façon, ils l'ont su parce que c'était un petit village. Et tout ça, de toute façon, ça va vite. Donc, j'ai eu honte, énormément honte, et en fait, j'ai fait une dépression de 3 mois. Donc, je voulais plus voir personne. C'était vraiment très, très, très compliqué. Et en fait, je pensais que j'avais une étiquette où c'était marqué autiste. Et même encore maintenant, quand j'y vais, quand je retourne chez mes parents, je sors, mais j'ai du mal à sortir parce que si c'est quelqu'un que je connais, en plus, bah, tout le monde me connaît évidemment, c'est un petit village de 100 habitants, donc un peu plus de 100 habitants quand même. Maintenant, les gens savent, donc ils vont plus vers moi, mais moi, en fait, c'est plus dur parce que je sais qu'ils savent. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser, en fait? Alors que peut-être qu'ils pensent à rien, pas forcément. Mais pour moi, en fait, ça me gêne, en fait. Parce que je sais que par quoi je suis passée, en fait, pour. Entre guillemets, d'arriver ben, ici. Mais enfin après, je me dis que en fait, il faut faire de sa différence une force. Qu'on soit autiste ou pas, qu'on ait n'importe quel que soit le handicap, en fait, moi, c'est hyper important de véhiculer ce message, en fait. Nous, en fait, enfin, les personnes avec TSA, on peut travailler. Juste qu'il faut que l'entreprise s'adapte et se forme. Parce que s'ils ne se forment pas, ben, déjà, ils ne peuvent pas nous comprendre. Et nous, en fait, on peut faire des efforts, on peut pas en faire autant que dans les entreprises. Et malheureusement, en France, en fait, il y a des entreprises qui ne veulent pas de personnes avec autisme parce qu'ils connaissent pas, parce que l'autisme fait peur, parce que le mot handicap fait peur. On est quand même en 2023 pour moi. Enfin, la société, non, en fait, elle régresse alors qu'elle devrait évoluer. C'est pas, enfin, pour moi, c'est pas ma logique, mais bon, après, c'est ma logique à moi. Mais enfin, pour moi, ouais, c'est ça. En fait, il faudrait qu'ils se forment plus. Après, peut-être qu'il y a un manque d'argent, mais en fait, il faut savoir que toutes les formations avec autisme sont gratuites de l'ARS. Enfin, moi, là, j'étais en. Après, c'est plus enfin, c'est plus spécial et j'ai fait une conférence sur l'autisme et le genre. Et en fait, il y avait 50%, donc il y avait plus de personnes. Enfin, il y avait plus de personnes avec un TSA que de professionnels. C'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas normal, en fait. Il devrait y avoir plus de professionnels que de personnes TSA. Après, on peut pas forcer les gens, hein, on va pas dire allez-y!
Que ça, exactement. Et la question que j'avais justement tout à l'heure, c'est pendant ton cursus scolaire, est-ce que justement toi ça a été compliqué? Comment ça s'est passé les études pour toi?
Alors, moi, les études, comment dire? Déjà, j'ai vécu du harcèlement. Enfin, en fait, en primaire, ça allait à peu près, parce que c'est pareil, c'était une petite école. Et j'avais un groupe d'amis. Parce qu'en fait, comme c'est une petite école, du coup, bah, déjà, j'avais ma cousine de mon âge, donc ça aide un peu. J'avais ma voisine juste en face, donc pareil du même âge, donc ça aide aussi. Mais c'est vrai que j'étais souvent toute seule, en fait. Je jouais toute seule, tout le temps. Et bon, après, pareil, l'institut, on la connaissait, donc toujours, elle m'a toujours mis dans un petit cocon, Mélanie, il faut en prendre soin, c'est votre bébé, je vous raconte pas. Même encore maintenant, je viens dans mon village à la fête à me corner, c'est encore la petite Mélanie. Enfin, c'est marrant, enfin, ça me fait rire, entre guillemets. Mais des fois, ça me gêne, parce que je me dis, j'ai quand même 31 ans. Et en fait, des fois, ça peut faire des blocages, en fait.
Ouais, ça
Sans
t'infantilise.
que les personnes, en fait, comprennent pourquoi je bloque et que je vais pas vers eux. Mais parce qu'en fait, pour moi, en fait, ça me bloque. Enfin, ouais, c'est comme tu dis, ça m'infantilise. Et après, c'est tout. Enfin, je sais que maintenant, c'est comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes d'interaction sociale. J'étais à fond dans les cailloux. Alors, j'avais les poches, parce que ça, je me suis souvenue qu'après, en fait, le diagnostic. En fait, je me suis souvenue que je remplissais les poches de cailloux. parce que je pense que ça m'apaisait et que c'était lourd en fait. J'ai eu beaucoup de difficultés d'apprentissage. On a un cerveau qui est tout le temps à fond au taquet. Moi, je ne sais pas faire une seule chose à la fois. C'est pour ça que ça me fatigue, parce que genre ce matin, j'ai repassé et en même temps, j'ai fait une lessive. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais en tout cas, c'est magnifique. Des fois, c'est bien en fait. Mais des fois, en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand le cerveau, il est à fond tout le temps, on n'arrive pas à assimiler, en fait, comme une personne normale. Par exemple, moi, les devoirs, en fait, enfin, je goûtais. Déjà, j'avais même pas de pause. Parce qu'en fait, je suis une vraie tortue quand je mens, dû à mon hypersensibilité. Et donc, du coup, après le goûter, en fait, j'avais pas le temps de jouer. Tu rentres de l'école, t'es déjà éclaté, tu goûtes, après, tu fais tes devoirs. Si peu que t'as une leçon ou une poésie, tu commences, on va dire, vers 17h. Enfin, moi, c'était comme ça, je commençais à 17h. Au bout d'une heure, 1h30, ma mère s'est tirée les cheveux parce que elle essayait de me... Enfin, vraiment me faire apprendre tout ça. Alors, j'arrivais à la moitié, je savais. Sauf qu'une heure après, je savais plus. Et en fait, c'était comme ça jusque minuit. Donc, le lendemain, tu vas à l'école, t'es éclaté. Oui. Tu fais ton contrôle. 3 jours après, t'as 0. Alors, moi qui voulais amener la palme d'or, c'est mort. Hein. C'était cuit. Bon, c'est tout. Moi, c'était plus 0 égale la tête à Mélanie. Parce qu'évidemment, les profs comprenaient pas. On me disait souvent, t'as pas appris ta leçon. Ou alors, en plus, on dénigrait souvent, parce que du coup, t'as beaucoup de capacités, mais en gros, t'apprends pas, t'es nul. On m'a carrément dit que j'étais inembauchable. Donc, ça, déjà, qu'on se le prend déjà nous-mêmes, c'est dur. Quand il y a les parents à côté, c'est encore plus compliqué. Puis pour une directrice d'école, je trouve que c'est pas très, voilà, hein. Oui. Tu m'as compris? C'est pas, voilà. Donc oui, il y a eu beaucoup de harcèlement. Moi, j'ai eu beaucoup de harcèlement psychologique. Et moi, maintenant, dans ma vie quotidienne, ça a des répercussions énormes. J'ai du mal à faire confiance. Même la personne la plus gentille qui soit, en fait, je vais me dire, ouais, mais il y aura toujours une faille, en fait. Okay. Je vais me dire, après, c'est peut-être moi, au niveau de mon cerveau, qui s'est fait un blocage en fait là-dessus, mais enfin, je pense même faire une rencontre, on va dire, entre guillemets, amoureuse, c'est pareil. J'ai avoir confiance au début, mais en fait, si j'ai pas la preuve par A plus B, j'y arriverai pas. Hein, parce que pour moi, ça ne serait pas concret.
Ouais, t'es bridée là-dessus. Hein.
Donc, oui, et puis surtout aussi au niveau des cantines, par exemple, à l'école, je ne mangeais pas. Enfin, parce que j'étais tout le temps... Comme en fait, il y a beaucoup d'interactions sociales, quand on fatigue, du coup, moi, la cantine, c'était ma pause, en fait. Mmh. J'étais obligée. Donc, en fait, j'arrivais pas à manger tellement que j'étais stressée. Donc, c'était du pain et de l'eau.
Ouais.
C'était pas vraiment, très diète. Mmh. Donc, après, c'est vrai que les profs se sont quand même pas mal inquiétés parce que je mangeais pas. Et du coup, c'est ma cousine qui en a parlé à mes parents, qui a dit, mais Yannick, elle mange pas. Et en fait, c'est parce que rien que l'odeur aussi, par exemple, on est sensible aux odeurs, tout ce qui est lumière. Et ça, c'est vrai que moi, chez moi, ça me dérange.
Mm.
Donc, en fait, je prépare à manger, je mange une demi-heure avant. Sauf qu'à l'école, on peut pas faire ça.
Mm.
C'est compliqué. Ou alors, faut nous isoler. Mais en fait, c'est pas forcément un bien parce qu'au niveau des interactions sociales, on n'a rien.
Mm.
Et d'ailleurs, il faut savoir que les personnes TSA ont besoin, même si nos interactions sociales sont restreintes, c'est vital pour nous. C'est un besoin. Moi je sais que je suis toute seule chez moi, mais en fait j'ai besoin d'interaction sociale parce que c'est dur quand même d'être je trouve. Après, c'est peut-être une question d'habitude. Majorité des cas, les témoignages que je vois, on a besoin d'interaction sociale. Ça, c'est vraiment
c'est hyper important.
Ouais, c'est hyper important. Et donc du coup j'ai eu des diplômes, en fait. J'ai eu le BAFA, j'ai eu le CAPA service à la personne, CAP fleuriste, le truc qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave, on m'a mis dans un truc comme ça, je suis tranquille. J'ai passé le CAP petite enfance toute seule, parce qu'en fait, je trouvais pas de ce truc, enfin, je suis tombée dans une école, enfin, c'est pas vraiment une école, c'est une maison de la deuxième chance.
Ok.
Et mes parents, en fait, ont regretté parce que déjà, j'avais plus de 20 ans et je suis tombée sur des personnes vraiment toxiques. Et c'était très compliqué. Et du coup, en fait, j'étais à l'internat. Sauf qu'il dit internat, quand t'arrives comme un cheveu dans la soie à soupe, c'est pareil, c'est compliqué. Donc, en fait, j'ai passé un an très compliqué là-haut. Mm. Et en fait, ça s'est fini que j'ai fait une insolation, en fait. Et ma mère a pété un câble. Enfin, mes parents ont pété un câble. En fait, ils ont prévenu mes parents à 11h. il y avait quand même 1 heure de route. Et j'avais bien prévenu avant, à 21h. Pareil, parce qu'on ne croit pas les personnes TSA, en général, enfin, surtout les enfants, enfin, les enfants, les ados. Et du coup, en fait, ça s'est fini que mes parents sont venus me chercher et je ne suis plus retournée du tout. Parce que, en fait, il n'y avait aucune empathie, en fait. Et ça, je trouve ça, même, enfin, que ce soit dans une école ou un lycée, en fait, moi, l'empathie, c'est un peu la base de la vie, quoi. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et à l'heure actuelle, en fait, on voit que ça baisse, ouais. Et c'est moche, quoi. Donc oui, je pense que... Enfin, franchement, je pense que j'aurais été diagnostiquée avant. J'aurais pas fait enfin, ces diplômes-là, en fait. Je serais passée dans une école d'art, tout ça. Je suis plus passionnée là-dedans, mais je pense qu'à l'école, à l'école, tout ça, elle nous oblige à faire des choses qu'on ne veut pas. Et on n'écoute pas assez la personne dans ses choix. Parce que oui, certes, on a des difficultés. Parce que souvent, dans le TSA, il y a des troubles 10. Moi, je suis dedans. J'ai une dyssensorialité, ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Dyslexie, dyspraxie. Donc, en gros, je suis un vrai Gaston. Ça, c'est le truc, hein. Je fais des gestes, des fois, je fais même des gestes moi-même où, en fait, je me rends pas compte, je fais par exemple ça. Et en fait, je me cogne, mais ça fait un peu comme un plaid, en fait. Bis, mais au féminin.
À la fin de tes études, t'as commencé directement à travailler ou il y a eu une période de latence? Et quel a été ton premier travail, justement?
Mon premier travail, ça a été à 16 ans, dans un petit village. En fait, j'étais en périscolaire. Et du coup, il m'avait pris, comme on prend juillet-août, quoi. Enfin, juillet, oui, que juillet. Et en fait, je m'avais travaillé en tant qu'animatrice périsco. Et en fait, c'est eux qui m'ont embauchée. En fait, parce qu'après après mes 16 ans, du coup, j'ai quand même continué mes études. Et j'ai quand même galéré parce que, on va dire que j'ai fait un service civique à, je crois que c'est 20 ans. Donc, ils m'ont pris un service civique. Et après, ils m'ont dit, voulu bien tout ça, ça se passait très bien hein, au début. J'ai rien à dire. En fait, ils m'ont pris en tant que responsable. Alors, déjà de base, je voulais pas être responsable parce que c'est quand même une responsabilité quand même quand t'as des enfants, t'en as pas qu'un. Bon, c'est tout, c'était un petit village donc j'ai dit oui. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix donc c'était soit ça, soit c'était dehors. Donc j'y suis allée. J'ai fait 3 ans, 2 ans surtout très très bien. Où j'ai pas eu de soucis, en fait, parce que je me plaisais. Et puis après, il y a eu des collègues un peu moins sympas, en fait. Je pense qu'ils voulaient ma place de responsable. Mais moi, en fait, je pense qu'on était un peu... on jalousait, en fait, un peu comment je travaillais. Et puis après, ils ont mis en place les NAPS, en fait. Et c'était tout ce qui est loisirs et tout. Sauf que moi, j'ai eu un souci, c'est que les enseignants, enfin, les deux enseignants, enfin, surtout une enseignante, quand elle m'a mis des bâtons dans les roues. Sauf que moi, je ne disais rien. Parce que je ne voulais pas que ce soit qu'on prenne un porte-à-faux. Sauf que malheureusement, c'est fini comme ça quand même. Et en fait, j'avais pas les salles. Donc, je ne pouvais pas faire les activités que je voulais, comme je voulais en fait. Donc, du coup, je me retrouvais à faire des temps de pause à chaque fois. Sauf que les parents viennent me voir et me disent, tu fais plus rien. Oui, mais en fait, j'ai un petit souci au niveau de la salle et c'est pas moi en fait à gérer quoi. Enfin, à un moment, faut que les deux passent, même si j'étais pas diagnostiquée. Il faut que les deux passent, même en tant que personne neurotypique, il faut être quand même un peu conciliant, quoi.
Tu as eu quand même plusieurs années entre le début de ta vie professionnelle et le diagnostic. Justement, comment les troubles du spectre autistique, ils ont affecté ta vie professionnelle?
Mais beaucoup de fatigue. J'étais très, très, très fatigable. Et en fait, au niveau de la présidie, moi, j'avais un gros souci au niveau au niveau de gérer mon temps. Par exemple, la prévisibilité, si on ne prévenait pas. Si on me disait, par exemple, parce que souvent pendant les vacances en périscolaire, le planning il change quand même très très régulièrement. Et en fait, une fois on m'a appelé, sauf qu'en fait il y avait quelque chose de prévu. Et du coup ça m'a bloqué. Mais vraiment bloqué. Hein. Ouais. Je dis non, je peux pas. Mais Mélanie, en fait, t'es marqué sur le planning. Oui, mais en fait j'ai prévu à 4h, pas à 2h en fait. Donc c'est pas pareil. Et pour nous en fait, en tant que personne TSA, il faut vraiment nous prévenir à l'avance. Et ça, c'est vrai que des fois, il y a des imprévus. Maintenant, je le sais, donc... Mais pour nous, c'est très, très, très compliqué. Par exemple, comme on me disait, quand je me prenais une réflexion, j'étais tout le temps à l'heure, et que là, en fait, j'arrivais, par exemple, à 5 minutes en retard. Ah, aujourd'hui, t'es en retard. En fait, ça arrive à tout le monde. Pourquoi une réflexion à une personne qui est tout le temps à l'heure, une fois, ça lui arrive, hop, on lui tape une réflexion, donc du coup... Comme nous, on ne sait pas gérer nos émotions, du coup, ça nous coûte. Enfin, je pense que ça, c'est... Après, la direction, en fait, ils l'ont su parce que, Enfin, c'est pas le directeur ne l'a pas su pas tout de suite. C'est ma mère parce que du coup je quand je l'ai su, j'étais vraiment très très mal.
Mmh.
Et en fait, on m'a mis en arrêt pendant un mois parce que mon contrat se terminait et que c'était mieux comme ça. Ma mère a vu le président qui est le maire du village et en fait, elle lui a expliqué pourquoi j'arrêtais, enfin pourquoi et en fait, lui a été étonné. Il dit c'est pas possible. Mmh. Ben en fait, si parce que le TSA, surtout féminin, ne se voit pas. Après, il y a des hommes qui développent l'autisme au féminin. Donc, ça. Mais, enfin, ça se voit. Enfin, pour moi, ça se voit pas. En général.
Et est-ce qu'au moment où tu as eu ton diagnostic, bah, du coup, ça a répondu à pas mal de questions que tu avais en suspens et tu disais pourquoi peut-être est-ce que je réagis comme ça?
Alors, oui, sur certains cas et des fois, ouais. Non. Par exemple, quand j'étais chez mes parents, je mettais la télé à 5.
Mmh.
C'est vraiment très, 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 très bas. Mais mes parents, ils mettaient vraiment vachement fort, en fait. Et quand ils rentraient dans, enfin, pour moi, et quand ils rentraient dans la pièce, ils me disaient, Annie, j'entends rien. Alors, je dis, moi, j'entends super bien, en fait. C'est comme j'entends 1000 fois plus qu'une personne classique. Et en fait, mes parents ont compris, et moi, j'ai compris, en fait. Mmh. Donc, ça veut dire que, en fait, quand je vais chez quelqu'un, je m'adapte. Mais quand on vient chez moi, faut que la personne s'adapte aussi.
Mmh.
Après, je vais bien faire un effort quand même, augmenter quand même la besoin, parce que sinon, le pauvre, il n'entendra rien.
Ouais, c'est une question d'équilibre entre les deux, de pouvoir chacun s'adapter.
C'est ça, il faut s'adapter. Après, si on a par exemple, la personne veut s'isoler, il faut accepter que la personne s'isole.
Mm.
Ça, c'est un fonctionnement qui est différent, et en fait, on parle de plus en plus, enfin, en tout cas dans les Ardennes, une évolution de l'être humain. Et en fait, moi, je sais que la personne qui m'a diagnostiqué m'a dit, dans quelques années, il y aura plus de personnes avec des troubles autistiques ou de l'autisme, de personnes neurotypiques. Et franchement, ça, je le pense de plus en plus. Hein, parce que c'est énorme le nombre de diagnostics. Franchement, ça a changé ma vie, hein, nettement. Parce qu'avant, j'étais. Avant, j'aurais jamais fait ce que je fais là. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, à l'école, j'allais jamais au tableau. C'est prendre la parole, c'était. Je pouvais pas, en fait. Parce que j'étais complètement bloquée. Puis maintenant, je suis là. Je parle ici. Je me retrouve. Mais après c'est pareil, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du théâtre. Il y a des personnes en fait qui n'ont pas compris quand j'ai été diagnostiquée le changement radical. Mais je pense qu'un diagnostic en fait tu commences à te comprendre en fait, tu cherches les choses. Puis moi j'ai cherché, j'ai fait toutes les, j'ai pas mal cherché, j'ai lu beaucoup de livres. D'ailleurs il y a un livre de Sophie Daché, je sais pas si tu connais.
Non je connais pas, vas-y dis-moi.
C'est La différence invisible.
Ok.
En fait, elle parle comment nous on fonctionne, comment on réagit. Par exemple, quand on va dans un magasin que la lumière elle est trop forte, on a les yeux explosés. Enfin, pour ça qu'on a des lunettes de soleil. Ça, c'est une stratégie. Mais ça a changé toute ma vie en fait. Et les gens dans mon village, c'est même surprise au moment de la fête cette année. En fait, j'ai dit bonjour et genre les gens ils m'ont, enfin. Mais un bonjour classique, enfin moi que je pensais classique, en fait on m'a dit mais Mélanie en fait tu te rends pas compte comment t'as changé. J'ai dit, moi j'ai pas changé en fait, je suis toujours la même personne. C'est pas parce que j'ai un trouble autistique que je vais changer, j'ai toujours mon humour autant décapant. Ça je l'ai gardé parce que après c'est pour moi ça, le handicap ça définit pas la personne.
Tout à fait.
Après c'est mon point de vue mais après, c'est parce que aussi peut-être que j'ai de la chance aussi d'avoir des amis. Après, j'en ai pas énormément, mais j'en ai. Qui m'ont comprise, en fait.
Mmh. Ils t'ont aidé dans l'acceptation aussi du diagnostic.
Et ça change énormément.
Toi, quelles sont un peu justement les forces et les compétences particulières en rapport donc avec ton travail en tant que personne qui a un trouble du spectre autistique?
Alors, très perfectionniste, très ponctuel. Ça, c'est sûr, on est très ponctuel. En général, on est tellement stressé d'arriver en retard, on est tout le temps là. Trop même. En fait, nous, chez les autistes, en fait, on travaille en qualité. C'est très, très qualitatif notre travail. C'est pas productif, par exemple. Parce que comme on est des tortues, on a un peu de temps sur pulsion. Et en fait, nous, on travaille en qualité. C'est vrai que maintenant, en fait, moi, je trouve que maintenant, on met beaucoup la pression, en fait. Et les personnes autistes, eux, ils fonctionnent pas comme ça. On est vraiment dans la qualité, on veut que tout soit bien fait, tout millimétré, tout bien, parfait. Et ça, parfois, on fait des fois la remarque que c'est pas forcément... Il y a trop d'imperfections, on va dire. Pas forcément bien. Et moi, je trouve que c'est bien, justement. C'est bien fait. devrait être une qualité.
C'est ça, exactement.
Après, en général, on est gentil, quand même. Ben, on est atypique, donc en fait unique, donc ça c'est une bonne valeur. On est courageux, parce que je pense que comme on est fort fatigable, en fait on prend beaucoup, beaucoup sur nous, donc on est des warriors. Donc oui, on est courageux. Moi j'ai beaucoup d'humour, donc je masque un peu mon syndrome avec ça, parce que ça m'aide en fait. Du coup j'arrive à trouver une solution à chaque fois.
C'est ça.
Ah non, puis on a beaucoup d'empathie. Ah oui, ça, on a beaucoup d'empathie. On est très social. Surtout chez les femmes, on est très social. Après les hommes, il y a un peu moins de côté social quand même. Par contre, notre défaut, parce qu'on est sans filtre et on est très cash, quand on a quelque chose à dire, on y va. Après, moi qui est hypersensible, en fait, après, je culpabilise. Je culpabilise énormément. Et en fait, je me dis, oh, j'aurais pas dû dire ça. Zut, la boulette. Mais bon, tant pis. Après, de toute façon, c'est fait, donc on peut pas revenir en arrière, on peut pas rembobiner.
Et justement, est-ce que toi, tu as fait des ajustements spécifiques dans ton environnement de travail pour mieux gérer en fait les aspects qui sont liés à l'autisme?
Alors déjà, moi, comme je suis à mon compte, j'ai pas de collègues, donc ça c'est vraiment le top.
Ça a vraiment changé entre au moment où tu travaillais en étant salarié et maintenant que tu es à ton compte, tu te sens beaucoup mieux. Justement, dans ton quotidien.
Ouais, je me sens mieux. Après, c'est sûr que ça me fatigue. De toute façon, tout va me fatiguer. Donc, après, il faut se forcer. Il ne faut pas dire, j'ai un handicap, c'est bon, quoi, je fais rien. Non, il faut se forcer. Après, c'est sûr, c'est dur de trouver. Parce que y a des gens qui ne comprennent pas. Après, il faut mentir. Et ça, le mensonge, on n'aime pas du tout. Et ça, c'est une bonne valeur. Enfin, je trouve que c'est des belles valeurs. Puis, du coup, Cap Emploi, aussi, qu'il y a des aides. Et en fait, c'est eux qui nous aident surtout au niveau des papiers. Après, c'est mon aidante qui a géré parce qu'honnêtement, les papiers, c'est la misère. Il faudrait que ce soit simplifié. Mmh. Pour nous, en fait, moi, franchement, déjà rien que le dossier NDPH. Heureusement que ma mère était là parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait oulala, c'est quoi ce truc? Non, en fait, moi, je m'adapte vachement aux autres. Et après, malheureusement, les autres s'adaptent pas forcément à nous. Donc, non, moi, enfin, après, je pense que ça dépend des entreprises, mais après faut se faire aider par des psys, par la MDPH, c'est eux qui vont dire en fait ce qu'on a besoin.
Ouais, mais dans les ajustements, je crois que tu m'avais parlé de tes heures de sommeil où tu dormais plus, je crois, et d'une couverture lestée, je crois.
Oui, parce que j'ai pas pissé sur moi. Et oui, c'est ça, j'ai une couverture lestée, là qui a été prise en charge par la MDPH. Alors moi, elle vient pas d'Obstoys, mais elle vient de Nature et Découverte, très bon site. Ouais. En fait, c'est marqué le poids. Et moi, elle fait entre 5 kilos et 7 kilos et demi. Alors, c'est lourd.
D'accord. Ouais.
À mettre demi. Donc, je fais mes muscles tous les soirs, mon sport. Mais je dors beaucoup.
Ça t'aide à dormir.
Ouais, parce qu'en fait, quand par exemple l'été, j'écoute la musique en boucle. Ça m'aide à m'endormir. J'écoute toujours le même style de musique. En ce moment, c'est des années 80, donc je danse même la nuit. franchement, c'est comique. Et du coup, je mets ma couverture vestie le soir. Et le lendemain, par contre, je la retire parce que ça tient chaud quand même. Parce qu'en fait, on ne ressent pas le poids du corps. Les personnes TSA. Donc, mais au début, j'avais jamais testé. Et j'ai franchement, même pour les personnes anxieuses et un peu stressées, c'est magique. Hein.
Et tu, avant de tester justement cette couverture lestée, tu avais des troubles du sommeil ou pas?
Souvent, chez les personnes TSA, on a des troubles du sommeil. Ouais. C'est très, 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 très courant. J'arrive jamais à faire une nuit complète. Hein. C'est impossible.
Et tu n'avais jamais trouvé d'autres solutions pour t'aider à t'endormir?
Non. En fait, depuis mes 26 ans, en fait, je dormais sans dormir. C'est au moment du diagnostic qu'on m'a dit pourquoi tu écoutes pas la musique, et en fait c'est vrai que ça m'endort, mais ça met du temps. Du coup je l'ai couché à 9h, mais je dors pas avant 11h. Donc après, si on peut dormir avec un doudou, moi c'est tant que je suis toute seule, je dormirai avec un doudou, ça c'est très apaisant en fait. Après j'ai pris un chat, mon frère ne dort pas avec moi. Bon, malheureusement des fois je me fais avoir assez en dessous du lit, donc évidemment elle dort à côté de moi des fois, mais j'évite. Ça aussi, ça peut être aussi un confort. Oui, donc du coup, je couche à 9h et en fait, je fais le tour du cadran. En fait, je suis obligée parce que sinon, le lendemain, je suis chiante en fait. Et des fois, je me dis, t'es chiante aujourd'hui, faut pas que tu sortes. Parce que si tu sors, ça va être compliqué avec lui. Si tu croises quelqu'un, ça va être compliqué. Donc, des fois, je sors pas à cause de ça. Ou alors, parfois, c'est ce que je disais dans ce que je fais en fait dans mon compte Insta, sur les préjugés du spectre autistique. Parfois, en fait, on ne nous invite pas. Parce qu'en fait, on a tout le temps refusé, en fait, parce qu'on était fort fatigable. C'est par exemple, parce qu'on va savoir que je suis fort fatigable. Mais en fait, c'est pas vraiment une raison pour moi. Parce qu'on peut dire à la personne, bah, écoute, tu viens manger. Par contre, il ne faut pas dire qu'on vient manger. Il faut dire, je t'invite. Parce que si on dit à un autiste, tu viens manger, on va manger et après on va partir. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, moi, je fais pas, mais il y en a qui le font. En fait, on peut nous dire, bah, écoute, je t'invite à midi. Puis après, bon, c'est tout, je repars vers 4-5 heures. Ça, c'est faisable. Le soir, c'est faisable aussi. Sauf que, ben, évidemment, je vais partir plus tôt parce que je suis fort fatigable. Et si c'est le jour où ça tombe, où j'ai pas dormi de la nuit, ben, je vais être obligée de décliner. Souvent, on comprend pas ça. Mais en fait, c'est pas de la faute de la personne, c'est son handicap qui est comme ça. Enfin, c'est notre handicap qui est comme ça. Et du coup, ben, on n'a pas le choix de, ben, de faire avec. Et en fait, souvent, ben, la personne, elle comprend pas. Donc, du coup, ben, elle ne parle plus. En fait, moi, c'est pas de ma faute.
Je voulais savoir comment tu gères les sensibilités sensorielles sur le lieu de travail, les interactions sociales avec les collègues quand tu étais en salarié.
Ah ben moi, j'adore parler. Enfin, je pense que ça se voit. Je suis une vraie hyper. Je parle hyper vite, hein, en plus. Non, en fait, je pense que je me suis suradaptée. Depuis que je suis petite, je pense que je me suis suradaptée. Par contre, maintenant, j'accepte plus. Par exemple, quand je vais faire mes courses, maintenant, j'accepte de mettre mes lunettes de soleil. Alors, ça fait un peu star, mais c'est pas le but du tout. C'est juste qu'en fait, je vois moins les gens. Donc, ça me fatigue plus, ça me fatigue moins, pardon. Les lumières, c'est pareil, ça me coûte moins d'énergie parce qu'en les spots, franchement, ils pourraient réduire un petit peu, quoi. Pas grand-chose, mais ils pouvaient réduire un tout petit peu. Déjà, on fait des économies d'énergie. Donc, ça, je trouve ça quand même bien. C'est un point positif. Et puis, après, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont pas TSA et qui ont vraiment des sensibilités fortes. Et moi, enfin, donc, du coup, tout ce qui est lumière, c'est les lunettes. Les odeurs, ben, je peux pas, donc, ben, je suis obligée de faire avec. Par exemple, quand je sors ma poubelle, je la sors je la mets sur mon couloir. J'attends une demi-heure avant parce que moi, je suis fort sensible de l'estomac. Et après, je la descends. Et je sais que quand je rentre, ben, je suis en mode vomito, donc je mange après, en fait, donc je mange hyper tard. C'est une adaptation qui parfois peut déranger parce que ben c'est inatypique, mais ça on fait pas exprès. Pareil, tout ce qui est lave-vaisselle, ben en fait je prévois plus le lave-vaisselle que l'évier, enfin que le lavabo. Après, je me fais à manger à l'avance. En fait, on est toujours dans l'anticipation. Ça c'est obligatoire.
Ça peut être une qualité au travail, du coup.
Ah oui, voilà, je cherche l'organisation. Oui, on est très doués. Mais ouais, non, ouais. Et si c'est vrai, l'anticipation. T'as trouvé.
Est-ce que tu peux nous partager une expérience positive, justement, qui est liée au travail et à ta sensibilité avec l'autisme?
Ben en fait, je pense que déjà les enfants bougent. Pas la personne comme un adulte jugerait sur le handicap en fait déjà. Après, moi j'ai fait énormément de choses avec eux. Bon, pas côté sportif, parce que notre sportif et moi, c'est pas possible. Je souffre comme un ver, donc voilà. Par contre, je suis très minutieuse. Enfin, dans mon cas, je suis très minutieuse en fait. Et j'avais fait en fait là, il y a pas très très longtemps, j'ai gardé un enfant. En fait, j'ai fait un tableau. Un remix d'un tableau hyper connu. Et en fait, les parents étaient tellement étonnés. Ils me disent, vous allez faire ça? C'est vrai que en fait, moi, je lui ai montré la base. Et en fait, il l'a fait tout seul. C'est pas moi qui. Et ouais, je fais pas mal de choses comme ça. Après, tant que je peux aider, de toute façon, j'aiderai. Mais je trouve que c'est hyper important. Parce que moi, je n'avais pas. Enfin, si je l'avais pas vu à la télé, en fait, j'aurais pas su. Enfin, si, j'aurais su parce que ma mère m'en aurait parlé un jour ou l'autre. Mais ou peut-être que je l'aurais su autrement, mais.
Ouais, ça t'a aidé dans la rapidité, en tout cas, du diagnostic pour toi.
Ben ouais, parce que la plupart, en fait, c'est 1 an minimum. Maintenant, c'est parti pour 3 ans.
Ouais, voire plus, ouais, en fonction
Ben,
des personnes.
Puis ça dépend des régions aussi.
Oui.
C'est affolant. Et moi, en fait, j'ai trouvé... Alors, ça, par contre, ça peut peut-être aider des gens. Vous allez voir, il y a des psys qui sont formés au TSA.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est vachement mieux.
Oui.
Enfin, moi, je me trouve plus là-dedans. Quoi.
Ok. Mais ça peut aider, ouais, pas mal de personnes.
Ça peut aider. Les tests de QI, ça peut aider.
Oui.
Parce qu'en général, on n'est pas difficile. La majorité des personnes autistes ne sont pas déficientes.
Non, c'est bon à rappeler.
C'est ça, ouais. Et puis, dans notre domaine, parce qu'on a des domaines spécifiques, on est hyper doués. Hein. C'est... Et ça, je trouve que c'est une... Ouais, ça, c'est une qualité aussi au travail.
Ouais, c'est vrai. Et justement, toi, quel conseil tu pourrais donner aux employeurs qui vont accueillir une personne qui a un trouble autistique? Comment créer, tu vois, un environnement de travail favorable pour cette personne?
Qu'elle soit sécurisant pour elle ou pour lui, hyper apaisant, et en fait, être toujours dans le bienveillant. Dans la bienveillance de la personne. Par exemple, s'il y a un bug social, ne pas lui dire, en parler avec... Si elle a son aidant ou une personne... de recharge, parce que nous, on a des personnes de recharge pour notre batterie. Appelez cette personne-là ou allez la voir. En fait, prenez un rendez-vous à part. Posez la question pourquoi elle a réagi comme ça. Et en fait, parce qu'en fait, nous, dès qu'il y a une réaction, il y a toujours une réponse, en fait. Par exemple, si on était agressif, c'est parce qu'on s'est senti agressé.
Ouais.
Par exemple. Ouais. Ça peut être des choses comme ça. Ou alors, par exemple, on n'a pas compris quelque chose, on n'a pas osé en parler. Et ça peut être aussi compliqué parce que ça fait partie du handicap. Mais en général, il y a toujours une... Enfin, moi, je pars du principe qu'à chaque difficulté, il y a une solution. Moi, j'ai réussi à les trouver toute seule. Des fois, je ne trouve pas un choc de poser des questions à mes parents. Je me dis, simplement, j'arrive à jongler. Mais je dirais qu'une chose, c'est aux entreprises, foncez. Foncez, n'hésitez pas. Enfin, après, ils peuvent se renseigner au niveau de Cap Emploi. Enfin, normalement, à Cap Emploi, ils sont formés à l'autisme. Après, ça dépend des Cap Emploi. Moi, je sais qu'à Charleville, ils sont formés.
Mm-hmm.
On sait. Mission locale, pareil. Ils sont formés à toutes sortes de handicaps. Ils connaissent. Après, faut aller voir du monde. Faut voir les aidants. Il y a éducateurs spécialisés. Et se former, l'ARS, ils font des formations sur l'autisme sans déficience intellectuelle gratuites. Et ça, c'est rare, les formations gratuites. Enfin,
non, c'est hyper important.
Il y en a qui sont payantes, mais en général, l'ARS, c'est sûr que c'est gratuit.
Toi, comment tu vois l'avenir de ta carrière? Parce que tu dis que tu es à ton compte maintenant. Comment tu te vois évoluer
Moi, déjà, je sais que je ne ferai pas ça toute ma vie parce que c'est quand même, les enfants, c'est fatigant.
Mmh.
Ça prend beaucoup d'énergie. Après moi, de toute façon, moi, ce que je veux par-dessus tout, percer dans l'art. Du coup, là, j'ai commencé à exposer. Mais après, enfin, ma mère me dit que c'est un loisir, mais pour moi, en fait, comme c'est dans mon domaine, pour moi, c'est pas un loisir. En fait, c'est comme un travail, en fait.
En fait, une passion peut devenir un travail.
Parce que je suis tellement un perfectionnement de ça, en fait, en détail, que je mets un temps infini à le faire. Mais voilà, de toute façon, c'est sûr, j'aurais télédiagnostiqué avant, j'aurais fait une école comme ça.
Et est-ce que je dérive un peu de sujet, mais est-ce que justement, toi, ton art, ça te permet aussi de t'exprimer sur tes émotions?
Oui, en fait, ça me décharge émotionnellement. Par exemple, si j'ai une émotion trop forte, je vais peindre en fait. Par exemple, moi, je peux commencer à peindre à 1h et finir à 20h. Bon, évidemment, je fais des pauses. Mais quand même. Mais en fait, je suis à fond. Sauf que des fois, je m'en rends pas compte. Je regarde l'heure, je fais « Oh, j'ai pas mangé.
»
Donc là, après, t'es pas bien parce que t'as ta tête qui tourne et tout. Tu te dis « Oh, faut que je me dépêche à manger. » Mais ça fait partie. En fait, nous, quand on est à fond, on est à fond tout le temps.
Dernière question du podcast que j'ai pour toi, c'est est-ce que t'as des recommandations pour les personnes justement qui ont un trouble du spectre autistique et qui cherchent justement à réussir dans le monde professionnel, mais qui ont un peu peur justement de rejoindre des entreprises?
Après, ça dépend comment la personne se sent avec son handicap, en fait, avec son autisme. Moi, je sais que je suis assez... maintenant que j'ai accepté, en fait. Et je pense que si on s'accepte soi-même, les autres vont plus nous accepter. Et je veux dire... par exemple, une personne qui est avec un TSA ne s'accepte pas parce que il y a le jugement de la personne qui te regarde. Faut expliquer les choses. Faut dire, écoutez, en fait, par exemple, quand on fait son CV, vous mettez qu'il y a une RQTH, comme ça ils savent qu'il y a une RQTH. Comme ça, déjà, vous êtes un très rassuré. Vous avez l'entretien. Par contre, très important, l'entretien, faut le dire. Comme ça, eux, en fait, ils ont des aides. Et après, faut expliquer les choses. Faut expliquer, chaque cas est différent. Faut expliquer, par exemple, si on a une hypersensibilité au bruit, lumière, l'odeur, ce qui nous dérange, en fait. Par exemple, ça peut être aussi sensoriel, tout ce qui est touché. Moi, c'est mon cas. Mais moi, ça, j'arrive à prendre sur moi. Donc, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut adapter. C'est-à-dire que, par exemple, on peut pas travailler souvent, on peut pas travailler à temps complet. Donc, on adapte à mi-temps. Ça peut être un mi-temps thérapeutique, vu par le médecin. Après, ça, en général, on demande, quand il y a une personne avec TSA, que l'entretien se fasse avec des aidants, une aide extérieure. Ça peut être un aidant, ça peut être un parent, ça peut être un frère ou une sœur. Et on peut dire pourquoi la personne est là.
Okay.
Moi, je sais que... Enfin, ça s'est pas fait, mais je sais que, par exemple, j'aurai un entretien. Je dirais, bah, écoutez, je suis avec une personne qui m'aide parce que j'ai des soucis d'interaction sociale, parce que je suis fort fatigable et que j'arrive pas à tout retenir. Après, j'ai aussi un trouble amnésique, donc je pense que ça n'arrange pas non plus. De toute façon, je pense qu'il faut tout dire, en fait. Et puis après, si la personne nous accepte, en fait, enfin, si elle veut vraiment nous prendre, en fait, elle nous prendra. Mmh. Mais peut-être qu'elle rate quelque chose.
C'est ça. Exactement. Elle a passé à côté d'une belle perle.
C'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Hein.
Tout à fait.
Il faut y croire, en fait. Parce que si on n'y croit pas, comme on dit, le positif attire le positif.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.